Les larmes de Hakim par Jack London. Les cris redoublaient, mais personne ne s'en souciait dans le quartier chinois d'Honolulu. Ceux qui les entendaient se contentaient de hausser les épaules et souriaient avec indulgence. « Qu'y a-t-il ? » demanda Chin Mo, alité à la suite d'une pleurésie aiguë, à son épouse qui venait de se pencher une seconde à la fenêtre. « Ce n'est que Hakim, » répondit-elle. « Sa mère est encore en train de le battre. » La scène se déroulait dans le jardin, derrière l'appartement attenant au magasin qui étalait sur la rue l'enseigne orgueilleuse Société Hakim, commerce en tout genre. Ce jardin, de 20 pieds carrés, parvenait adroitement à tromper l'œil et à donner l'illusion d'une étendue sans limite. On y trouvait des forêts de pins et de chênes nains, de 2 ou 3 pieds de haut, bien que vieux de centaines d'années, importés à grands frais. Un petit pont, long d'un pas, s'arquait au-dessus d'un fleuve minuscule rempli de poissons rouges aux nageoires d'une merveilleuse couleur orangée. Proportionnellement au lac et au paysage, ils atteignaient la taille de baleines. De chaque côté donnaient les nombreuses fenêtres des magasins à plusieurs étages. Au milieu du jardin, dans les 3 sentiers couverts de gravier qui contournaient le lac, Hakim recevait sa volée en poussant des cris d'or frais. Hakim avait pourtant passé l'âge tendre où l'on vous administre des taloches. Propriétaire des magasins de la société Hakim, il jouissait d'une belle fortune acquise au prix de longues années de labeur et d'économie. Parti comme simple tâcheron coulis au maigre salaire, il possédait maintenant en banque un crédit aux marges dorées. Un demi-siècle avait doté Hakim d'un embonpoint douillet et confortable. Petit de taille, il présentait un front arrondi comme la graine du pastèque et un visage de pleine lune. Son riche costume de soie et sa calotte noire, garni d'un bouton rouge en ce moment, hélas tombé sur le sol, le classait parmi les marchands les plus honorables et les plus opulents de sa race. Toutefois, pour l'instant, son apparence n'offrait rien de reluisant. Sautant et plongeant en avant pour éviter la grêle de coups que lui assénait une canne de bambou, il se tenait presque plié en deux. La bonne femme maniait la canne avec une adresse née d'une longue pratique. Vieille de 74 ans, elle portait amplement son âge. Ses jambes amaigries étaient enfermées dans un pantalon droit, d'étoffe rigide et d'un noir brillant. Ses rares cheveux gris, impeccablement tirés à plat en arrière, laissaient voir un front étroit et inexorable. Elle ne possédait pas de sourcils, les ayant perdus depuis longtemps, mais ses yeux, petits comme des trous d'épingle, étaient du noir le plus intense. Son aspect cadavéreux irritait l'œil. Son avant-bras ridé, que laissait voir la manche large, montrait, en fait de muscles, quelques cordes tendues entre les os, sous une peau jaune semblable à du parchemin. Le long de ce bras de momie, des bracelets de jade se déplaçaient et s'entrechoquaient à chaque coup donné. « Ah ! » criait-elle d'un ton aigu. « Je t'ai défendu de parler à l'IFA !» Et elle accentuait ses observations par des séries rythmées de 3 coups. « Aujourd'hui, tu t'es arrêté avec elle dans la rue. Vous avez causé pendant une demi-heure. Qu'est-ce que cela signifie ?»« C'est ce téléphone, 3 fois maudit !» bredouilla Hakim, tandis qu'elle s'arrêtait de frapper. « Tu tiens ces renseignements de Madame Chang Lucy ?»« Je le sais, elle m'a vu. Je vais faire enlever le téléphone. Il vient du diable. »« C'est en effet une invention de l'enfer !» acquiesça Madame Taifu, se remettant à l'œuvre. « Pourtant, le téléphone restera. J'aime à parler avec Madame Chang Lucy au téléphone. Elle a les yeux de 1000 chats et la langue de 10 000 crapauds, » proféra Hakim entre 2 plongeons. « C'est une créature à la face impudente et aux mœurs dépravées, » renchérit Madame Taifu. « Oui, Madame Chang Lucy a toujours été ainsi, » admit Hakim, son fils respectueux. « Je parle de l'IFA, » rectifia la mère, en renforçant ses paroles du geste. Elle n'est qu'à moitié chinoise, tu le sais. Sa mère était une indigène éhontée. Elle porte des jupes comme les femmes blanches sans honneur, et aussi des corsets. Je l'ai vue de mes yeux. Et où sont ses enfants? Cependant, elle a enterré 2 maris. Le premier s'est noyé, l'autre a été tué par un cheval, précisa Hakim. Après une année de sa compagnie, fils indigne d'un noble père, tu serais toi-même heureux d'aller te noyer ou de te faire tuer par un cheval. « Toi-même a enterré 2 maris, mère respectée, » répliqua Hakim, piqué au vif. « J'ai eu le bon goût de n'en point prendre un 3e. En tout cas, mes 2 maris sont morts honorablement, dans leur lit, et non pas sous des ruades de chevaux ou noyés dans la mer. D'ailleurs, est-ce l'affaire des gens si j'ai eu 2 maris ou 10 ou pas du tout? Tu m'as rendu ridicule à leurs yeux, aussi tu vas maintenant le payer. » Hakim supporta la grêle précipitée des coups, et quand sa mère dut s'arrêter, épuisée, hors d'haleine, il lui dit « Honorable mère, je t'ai toujours supplié de me battre dans la maison, porte et fenêtres closes, et non en public, dans la rue ou dans le jardin. Tu as appelé fleur de la lune argentée cette méprisable Lifa, reprit Madame Taïfou. Fait étrange, Hakim ne tentait aucun effort pour échapper aux foudres de sa mère, ce qui lui était facile. D'autre part, la vieille trouva une nouvelle raison pour continuer à le frapper. « Ah, entêté, pourquoi ne pleures-tu pas, mulet qui fait honte à tes ancêtres? Je n'ai jamais réussi à te faire pleurer, même au temps où tu n'étais qu'un gamin. Réponds-moi, pourquoi ne pleures-tu pas ?» Fatiguée et essoufflée, elle lâcha sa canne et se mit à trembler comme atteinte d'une paralysie nerveuse. « Je ne sais pas, je suis ainsi fait, » répondit Hakim, considérant sa mère avec tendresse. « Je vais t'apporter un siège pour t'asseoir et te reposer. Tu te sentiras mieux. » Mais, dédaigneusement, elle le quitta et, à pas incertain, traversa le jardin pour regagner la maison. Hakim, après avoir ramassé sa calotte et lissé de la main ses vêtements froissés, la considérait avec des yeux pleins d'affection tout en frictionnant ses bosses. Mais malheur, il sourit, et on aurait pu croire qu'il avait pris plaisir à s'aboler. Il en avait été ainsi pour Hakim depuis l'époque où, tout enfant, il vivait sur les hautes falaises de la 11e cataracte du fleuve Yangtze. Son père y était né et y trimait depuis son adolescence, comme à l'heure de bateau. À sa mort, Hakim, adolescent, lui succéda dans la même honorable profession. Aussi loin que remontassent les annales de sa famille, tous les mâles y avaient exercé le métier de haleur. Déjà, au temps du Christ, ses ancêtres attendaient par-delà l'eau écumeuse, en aval de la gorge, des jonques exactement semblables, étendait les 400 mètres de cordes attachées à chaque jonque, le long de laquelle il s'alignait, au nombre de 100 à 200, suivant le tonnage. Pur bétail à deux pattes, ils s'arc-boutaient en avant, au point que leurs mains touchaient le sol, et tiraient le bateau à travers l'écume jusqu'à l'entrée du canyon. Probablement, au cours des siècles successifs, le tarif de ce travail n'avait pas changé. Le grand-père d'Hakim, son père et lui-même, recevaient la même rémunération. Le 14e d'un cent par jonque, ainsi qu'il avait appris à évaluer l'argent depuis son arrivée à Hawaï. Pendant les belles journées d'été, lorsque le passage plus facile multipliait le nombre des jonques et qu'il faisait clair 16 heures durant, ces 16 heures d'un labeur surhumain lui rapportaient un peu plus d'un cent. En toute une année, un haleur ne gagnait guère qu'un dollar et demi. Hakim vivait heureux et fier quand, par une âpre journée de printemps, sous une tempête de grêle, il ramena sur la rive un matelot de canton en train de se noyer. Tout en se réchauffant à son foyer, cet errant prononça devant Hakim le nom magique de Hawaï. Lui-même, avouait-il, n'avait jamais vu ce paradis des travailleurs, mais nombre de ses compatriotes de canton y étaient allés. Il citait les termes des lettres qu'ils écrivaient à leur famille. On ne connaissait Hawaï ni le froid ni la famine. Quand Hakim atteignit ses 24 ans, il démissionna de l'antique et honorable corporation des haleurs de la 11e cataracte, malgré les reproches et les coups que lui prodiguait sa mère. Celle-ci s'engagea comme servante chez un patron coulis, moyennant un dollar par an, plus un costume d'une valeur d'au moins 30 cents, et lui-même s'embarqua sur le Yangtze pour gagner la grande mer. Nombreuses furent ses aventures et pénibles ses épreuves, avant que, matelot de jonque marine, il parvint à Canton. À 26 ans, il céda, par contrat, 5 années de son existence et de son travail au roi du sucre d'Hawaï et partit avec 800 de ses congénères pour l'île lointaine. Lorsque Hakim allait les bateaux, il tenait un rang honorable parmi les travailleurs. À Hawaï, tout en recevant une paye 100 fois supérieure, il était considéré comme l'être le plus bas de l'échelle sociale. Qu'y a-t-il au-dessous d'un coulis de plantation? Mais un coulis dont les ancêtres faisaient remonter aux jonques la 11e cataracte du Yangtze, bien avant l'ère chrétienne, a forcément reçu en héritage, à haute dose, une qualité précieuse, la patience. Hakim la possédait. Au bout de 5 années, son engagement terminé, il n'avait pas engraissé, mais il manquait juste 10 dollars papier à son compte en banque pour atteindre 1000 dollars. Cette somme lui aurait suffi pour retourner au Yangtze et y terminer ses jours dans la peau d'un homme vraiment opulent. Il eût possédé davantage. En tout cas, il ne retourna pas en Chine. En observant la vie commerciale d'Hawaï, il avait conçu une puissante ambition. Pendant 6 mois, afin de s'initier aux affaires et à la pratique de la langue anglaise, il s'employa dans les magasins de la plantation. Au bout de ce temps, il en savait plus qu'aucun des directeurs. Quand il abandonna cette situation, il touchait 40 dollars or, soit 80 dollars papier par mois, et commençait à se remplumer. Alors il affecta une attitude hautaine envers les simples coolies. Son directeur lui offrit de l'augmenter jusqu'à 60 dollars or, ce qui, en un an, constituerait la somme fabuleuse de 1440 dollars papier, ou 700 fois sa paye annuelle sur le Yangtze, comme bête de somme à deux pattes, à raison d'un 14e de cent or par jonc. Loin d'accepter, Hakim se rendit à Honolulu, s'embaucha dans l'emploi le plus humble, au grand magasin généraux de Fong et Chaufong, pour 15 dollars or par mois. Il y travailla un an et demi, et en partit à l'âge de 33 ans, bien qu'à ce moment ses patrons chinois le payassent 75 dollars or par mois. Ce fut alors qu'il arbora sa propre enseigne, Société Hakim, commerce en tout genre. Comme il s'alimentait mieux, on put déjà sur sa personne, moins maigre, percevoir certaines prédispositions à l'embonpoint. Avec les années, il continua de prospérer, si bien qu'à l'âge de 36 ans, non seulement sa silhouette s'arrondissait rapidement, mais encore, il faisait partie des puissants et exclusifs Ai Gung Tong et de l'Association des négociants chinois et offrait des dîners dont le moindre lui coûtait plus que ne l'eussent rapporté 30 ans de halage sur la 11e cataracte. Deux choses pourtant lui manquaient, une épouse et sa mère pour lui appliquer la bastonnade comme autrefois. À 37 ans, il possédait en banque 3000 dollars or. Moyennant 2500 comptants et une bénigne hypothèque, il pouvait acquérir le magasin de 3 étages et le terrain sur lequel il s'élevait. Mais en ce cas, il ne lui restait plus que 500 dollars pour acheter une femme. Or, Fu Yupo avait une fille nubile, au menu pied, comme il convient, qu'il consentait à importer de Chine et à lui vendre pour 800 dollars or, non compris les frais de transport. Plus tard, Fu Yupo transigea même à 500 dollars comptant et le reste en billets à 6%. Hakim, âgé de 37 ans, bien portant et célibataire, avait réellement besoin d'une épouse au petit pied. Née et élevée en Chine, l'idée immémoriale et profondément enracinée des petits pieds ne se séparait pas chez lui de la conception de la femme, mais il désirait plus encore les délicieuses corrections maternelles. Alors, il déclina les offres pourtant accommodantes de Fu Yupo et à bien moindre frais fit venir sa propre mère. Pendant 13 années, Hakim connut dans la société de sa mère un bonheur passable, recevant d'elle des volets méthodiques pour des raisons justes ou injustes, réelles ou imaginaires. Mais elle ressentit bientôt, aussi violent que jamais, le besoin d'une épouse et le désir de fils qui lui succéderait et continuerait la dynastie de la société à Hakim. Tel est le rêve qui a constamment tourmenté les hommes, depuis celui qui, le premier, usurpa un droit de chasse, s'arrogea un banc de sable pour y pêcher ou s'empara d'un village et dont il passa tous les mâles au fil de l'épée. Les rois, les millionnaires et les marchands chinois d'Honolulu ont cela de commun, bien que chacun de son côté remercie Dieu de l'avoir créé à son image et différent des autres hommes. Mais, à 50 ans, l'idéal féminin d'Hakim différait totalement de celui de ses 37 ans. Maintenant, il n'aspirait plus à posséder une épouse aux pieds contrefaits, mais une femme libre, à la démarche aisée et aux pieds normaux. Dans ses songeries du jour et ses rêves de la nuit, il lui apparaissait sous les traits de Li Fa, la fleur de la lune argentée. Peu importait qu'elle fût deux fois veuve et fille d'une mère indigène, qu'elle s'affubât de jupes, de corsets, de mules à hauts talons, comme les diablesses blanches, il la désirait. Il lui semblait écrit qu'elle et lui dussent devenir les ancêtres de la postérité qui perpétuerait à travers les générations la propriété et la direction de la société Hakim, commerce en tout genre. « Je ne veux pas pour bru une femme à moitié paquet », lui répétait souvent sa mère. « Paquet » est le mot hawaïen qui signifie chinois. « Ma bru sera tout entière paquet comme toi, mon fils, et comme ta mère. Elle portera des pantalons, mon fils, comme toutes les femmes de notre famille. Une femme en jupe et corset ne saurait témoigner à nos ancêtres la vénération qui leur est due. Corset et respect ne vont pas de pair. Cette éhontée de l'IFA au caractère indépendant ne se maniera docile ni envers son mari, ni envers la mère de son mari. Cette effrontée se considérerait la fondatrice d'une généalogie et refuserait de reconnaître nos ancêtres. Elle se moque de nos bâtons d'encens, de nos papiers de prière, de nos dieux familiers. Et on m'a bien prévenu. « Madame Chang Lucie, » grommela Hakim, « Pas seulement Madame Chang Lucy, oh mon fils, je me suis renseigné. Au moins une douzaine de personnes l'ont entendu traiter le culte de nos dieux de singerie imbécile. Ce sont les propres termes de cette femme qui mange du poisson cru, de la pieuvre crue et du chien cuit. Nous sommes bêtes comme des singes, et pourtant elle voudrait bien t'épouser, toi, un singe, à cause de ton magasin splendide comme un palais et de la richesse qui fait de toi un personnage important. La honte retomberait sur moi et sur ton père mort depuis longtemps dans l'honorabilité. » Hakim admettait sans discuter les bonnes raisons de sa mère. Ce n'était pas en vain que 40 années auparavant, Lifa était née d'un père chinois affranchi de toutes les traditions et d'une mère indigène, dont les descendants immédiats avaient rompu les tabous et abattu leurs dieux polynésiens pour aller lâchement écouter les sermons des missionnaires chrétiens. Lifa avait reçu de l'instruction. Elle savait lire et écrire l'anglais, le hawaïen et pas mal de caractères chinois, et elle prétendait ne croire en rien. Pourtant, au plus profond de son cœur, elle redoutait les Kahana, les sorciers hawaïens, qui pouvaient, elle en était persuadée, chasser le mauvais sort par leur charme ou faire mourir quelqu'un par leurs incantations. L'acide du modernisme avait également corrodé à Hakim. Certes, il tenait encore aux traditions, et dans les profondeurs les plus mystérieuses de son être, il sentait la main poudreuse du passé s'apesantir sur lui. Cependant, il payait de fortes polices d'assurance sur la vie et contre l'incendie, remplissait les fonctions de trésorier auprès des révolutionnaires chinois d'Hawaï qui voulaient transformer le céleste empire en une république. Hakim n'osait se représenter à lui-même. Combien de vieilles croyances il avait cessé de considérer comme articles de foi. Sa mère appartenait au vieux temps, cependant il la vénérait et s'estimait heureux sans sa canne de bambou. Lifa, la fleur de la lune argentée, appartenait au temps moderne. Pourtant, il ne connaîtrait jamais le bonheur parfait sans elle. Car il aimait Lifa. Malgré son visage de pleine lune et son crâne rond comme la graine de la pastèque, Hakim, négociant avisé, riche de la sagesse acquise dans un demi-siècle d'existence, devenait un artiste quand il songeait à elle. Il la parait de poésie, célébrait sa féminité en expressions fleuries et en abstractions philosophiques. Elle était sa fleur de prunier, sa tranquillité faite femme, son pétale de sérénité, son lys de lune et son repos parfait. Et tout en murmurant ses tendres appellations amoureuses, il lui semblait trouver en elle le frisli des eaux vives, le tintement de clochettes d'argent, les parfums du laurier rose et du jasmin. « Mais elle est mon aïeule vénérée !» expliquait Hakim, intimidé et malheureux. Lifa, s'étant assurée que Madame Taifu se trouvait au temple de l'esclave chinois, elle voulait offrir du canard séché des prières pour sa santé chancelante, avait saisi cette occasion pour venir au magasin faire visite à Hakim. Lifa, plissant ses lèvres insolentes et non peintes en la forme d'un bouton de rose à demi épanoui, lui répliqua « Cela se passe peut-être ainsi en Chine, mais je ne connais pas ce pays. Nous sommes en Hawaï, et ici tous les étrangers changent leurs coutumes. » « Elle n'en reste pas moi mon ancêtre, » protesta Hakim, « la mère qui m'a donné le jour. Que j'habite la Chine ou Hawaï, en fleur de la lune argentée que je désire pour épouse. » « J'ai déjà eu 2 maris, » exposa avec calme Lifa, « un paquet et un portugais. Des 2, j'ai beaucoup appris. De surcroît, j'ai reçu de l'instruction. J'ai fréquenté l'école supérieure, et je puis jouer du piano en public. » Oui, j'ai acquis une grande expérience auprès de mes 2 maris. Les paquets font les meilleurs époux, et je ne me remarierai jamais avec un autre qu'un paquet, à condition toutefois qu'ils ne me prennent point par l'oreille. D'où savez-vous cela ? Fit-il avec méfiance. Madame Chang Lucy, répondit-elle. Madame Chang Lucy me rapporte tout ce que votre mère vient lui raconter, et votre mère lui dit beaucoup de choses. Moi, je vous certifie que mon oreille n'est pas faite pour cela. C'est ce qu'affirme ma mère vénérée. Murmura Hakim. « Votre mère vénérée l'a dit à Madame Chang Lucy qui me l'a répété, » acheva Lifa. « Et maintenant je vais vous apprendre, ô mon futur 3e époux, que l'homme n'est pas encore né qui me mènera par l'oreille. Ce n'est pas l'habitude en Hawaï. Je marcherai seulement la main dans la main de mon époux côte à côte. Je serai son égal. Mon mari portugais était d'un sentiment différent. Il essaya de me battre. Je l'assignai 3 fois au tribunal de simple police, et les 3 fois, il me purgea sa peine sur le récif, après quoi il se noya. « Ma mère est ma mère depuis 50 ans, » déclara fermement Hakim. « Et depuis 50 ans, elle vous bat, » ricana Lifa. « Ce que mon père pouvait se moquer de Yap Ten Shin. Yap Tenshin, né en Chine comme vous, en pratiquait encore les coutumes. Son père le frappait continuellement à coups de bâton. Quand il devint missionnaire, chaque fois qu'il se rendait aux offices, le vieux le rouait de coups, et chaque fois que le chef de la mission l'apprenait, il réprimandait Yap Tenshin pour s'être laissé battre. De son côté, mon père n'arrêtait pas de rire, car c'était un paquet très libéral, qui avait changé ses habitudes plus rapidement que la plupart des étrangers. Tout le mal provenait de ce que Yap Tenshin possédait un cœur trop affectueux. Il aimait son honorable père et aussi le dieu amour du missionnaire chrétien. Mais bientôt il trouva en moi le plus puissant des amours, celui de la femme, et pour moi il oublia à la fois l'amour de son père et l'amour du Christ. Il offrit alors à mon père de m'acheter pour 600 $, prix peu élevé, parce que je n'avais pas les pieds réduits. Furieuse, je déclarai à l'auteur de mes jours que je ne me laisserais vendre à aucun homme comme une esclave. Mon institutrice de l'école supérieure, une vieille fille blanche, proclamait que l'amour de la femme surpassait toute estimation et ne pouvait se négocier. Sans doute était-ce pour cela qu'elle restait fille. Dépourvue de beauté, elle ne trouvait aucun amateur. Ma mère indigène disait qu'il n'entrait pas dans les mœurs du pays de céder les filles pour de l'argent. Les filles se donnaient par amour, mais elle consentira à écouter la voix de la raison si Yap Tenshi faisait généreusement les frais de l'UO. Mon père Paquet, large d'idées comme je vous l'ai dit, me demanda si je voulais Yap Tenshin pour époux. Je lui répondis affirmativement et de moi-même, en toute liberté, je me rendis chez Yap Tenshin. Il se montra un excellent mari, mais il fut tué par un cheval. Quant à vous, Hakim, je vous considère comme un homme honorable et bon et quelques jours, quand il ne faudra plus que vous me preniez par l'oreille, je vous épouserai. Je viendrai ici, je resterai près de vous et vous rendrai le paquet le plus heureux de tout Hawaï, car j'ai eu deux maris. J'ai fréquenté l'école supérieure et m'y entends à rendre heureux un époux. Mais cela ne se réalisera que quand votre mère aura cessé de vous battre. Madame Chang Lucie m'a rapporté qu'elle a la main plutôt lourde. Ça oui, acquiesça Hakim. Regardez. Et relevant ses larges manches, il découvrit jusqu'au coude ses avant-bras aux rondeurs enfantines. Il s'ornait d'échymos bleus ou noirs, témoignant de la virulence et du nombre des coups dont il avait réussi à protéger son crâne et son visage. « Mais elle ne m'a jamais fait pleurer », se hâta-t-il d'ajouter. « Jamais, depuis mon enfance, elle n'a réussi à me faire bercer des larmes. » « C'est ce que dit encore Madame Chang Lucie. » « Philifa, votre honorable mère s'est plaint à elle de n'être jamais parvenue à humecter vos yeux. » Un des employés émit, trop tard, un sifflement d'alerte. Ayant regagné sa maison par la ruelle de derrière, Madame Taifu, venant des pièces d'habitation, arrivait droit sur eux. Jamais Hakim n'avait vu dans les yeux de sa mère de telles lueurs de colère. Sans paraître en remarquer la présence de Lifa, elle s'écria « Cette fois, je vais te battre à t'en faire pleurer. » « Allons dans les pièces de derrière, honorable mère, » proposa Hakim. « Nous fermerons les fenêtres et les portes et tu me battras à volonté. »« Non, ici même, tu seras rossé devant tout le monde et en présence de cette femme éhontée qui, elle, voudrait te prendre par l'oreille et appeler mariage un tel sacrilège. Reste ici, fils impudique. » « Je n'ai nullement l'intention de partir, » fit Lifa. Et lançant au commis un coup d'œil menaçant, elle ajouta « Je voudrais bien voir que quelqu'un, par la police, me fasse sortir. »« Tu ne seras jamais ma bru, » grommela Madame Taifu. Lifa acquiesça d'un signe de tête. « Pourtant, votre fils sera mon troisième mari. Tu veux dire après sa mort ?» Clapit la vieille. « Le soleil se lève chaque matin, » dit Lifa d'un air énigmatique. « Toute ma vie, je l'ai vu se lever. Tu as 40 ans et tu mets un corset. Mais je ne me tape pas les cheveux. Cela viendra plus tard. » Riposta Lifa, sans s'émouvoir. « Pour ce qui est de mon âge, vous avez raison. J'aurai 41 ans au prochain anniversaire, Kamchamea. Depuis 40 ans, je vois le soleil se lever. Mon vieux père me disait peu avant sa mort que depuis son enfance, il n'avait jamais vu aucun changement dans le lever du soleil. La terre est ronde. Confucius ne le savait pas. Mais on l'enseigne dans toutes les géographies. La terre est ronde et tourne continuellement sur elle-même et en cercle. Et les saisons et les époques de la vie tournent avec elle. Ce qui est a déjà existé, ce qui a été existera de nouveau. Le temps de l'arbre à pain et du manguier revient toujours. L'homme et la femme se renouvellent. Au printemps, les rouges-gorges font leur nid et les pluvies arrivent du nord. Chaque printemps précède un autre. Le cocotier s'élève dans l'air, amène ses fruits à maturité et dépérit, mais il y a toujours des cocotiers. tout ce beau discours n'est pas de mon invention. Mon père m'en a appris la plus grande partie. Continuez, honorable madame Taillefou, battez votre fils. Mon futur troisième mari. Mais je vous préviens, je ne ferai qu'en rire. Hakim se laissa tomber sur ses genoux comme pour faciliter la besogne à sa mère. Et pendant que pleuvaient les coups de la canne de bambou, Lifa souriait et pouffait pour enfin rire aux éclats. « Plus fort, honorable madame Taillefou » criait-elle entre deux accès de gaieté. Madame Taillefou frappait de son mieux, mais elle manquait visiblement de vigueur. Tout à coup, de surprise, elle laissa tomber la canne à son côté. Hakim pleurait. Le long de ses joues, de grosses larmes roses se succédaient. Lifa le considérait avec étonnement. De même les commis bouche bée. Mais le plus stupéfait de tous était Hakim, il ne parvenait pas à arrêter le flot de ses larmes. Bien que la grêle de coups eût cessé, il continuait de pleurer. « Mais pourquoi pleuriez-vous ? » lui demandait souvent Lifa par la suite. « C'était tellement ridicule, elle ne vous faisait pas mal. »« Attendez notre mariage, » répondait invariablement Hakim. « Et alors ? Ô Lys de Lune, je vous la prendrai. » Deux années plus tard, un après-midi, Hakim, ressemblant plus que jamais à une graine de pastèque, rentrait d'une séance de la Société protectrice des Chinois et trouva sa mère morte sur son lit. Plus que jamais aussi, le front de la vieille aux cheveux tirés en arrière apparaissait inexorable. Mais sur son visage ridé se figeait un sourire. Les dieux s'étaient montrés cléments en lui accordant une mort sans douleur. Hakim téléphona aussitôt à Lifa, mais ne la rencontra que chez Madame Chang Lucy. Il lui apprit la nouvelle, et le jour de leur mariage fut aussitôt fixé à une date 10 fois plus rapprochée que ne l'eût exigé la vieille étiquette chinoise. Et s'il existe quelque chose d'analogue à une demoiselle d'honneur dans une noce chinoise, Madame Chang Lucy en remplit joyeusement le rôle. « Pourquoi ?» demanda Lifa à Hakim, quand le soir du mariage ils se trouvèrent enfin seuls. « Pourquoi avez-vous pleuré ce jour où votre mère vous a battu dans le magasin ? Ses larmes paraissaient ridicules, elles ne vous faisaient pas le moindre mal. »« C'est pour cette raison que j'ai pleuré, » répondit Hakim. Lifa le regarda sans comprendre. « J'ai pleuré, » expliqua-t-il, parce que je me suis brusquement aperçu que ma mère approchait de sa fin. Ses coups inoffensifs ne possédaient plus aucune vigueur. J'ai pleuré en constatant qu'elle n'avait plus la force de me faire mal. Voilà pourquoi j'ai pleuré, ma fleur de sérénité, mon repos parfait. Telle était la seule raison de mes larmes. » Ainsi s'achèvent les larmes de Hakim par Jack London.